Quatrième rencontre. Le chapitre qui précède nous a paru si coloré et si original que nous n'avons pas eu le courage de l'abréger beaucoup. Au ton héroïque se mêle dans le récit la gaieté rabelaisienne, et l'ensemble est, comme dans toutes les œuvres naïves, un composé de terribles de bouffons. Le déjeuner du Couloglou sur la montagne ne rappelle-t-il pas en effet une scène de Grand Gousier? N'y a-t-il pas aussi un peu du frère Jean des Entomures et de Panurge en même temps dans les niaiseries malicieuses qu'emploie Couloglou pour obtenir d'Aïvaz la permission de boire de son vin? Mais bientôt viennent les touchantes lamentations d'Aïvaz enlevées, et là, il y a la simplicité élevée de la forme biblique. Enfin, l'admiration de Reyhan pour l'arabe pour Couloglou, franchissant le précipice, finira dans la chevalerie merveilleuse de l'Arioste. La rencontre suivante pénètre plus avant dans les mœurs et usages de l'Orient. La princesse Nigara est toute une révélation de l'idéal de la femme dans ces contrées. Idéal bizarre et qui, pour le coup, n'est pas le nôtre. L'examen sera d'autant plus curieux, et ce serait peut-être ici le lieu de donner comme préface à ce chapitre un travail que M. Chodzko nous a communiqué sur les pratiques, usages, superstitions, idées religieuses et sociales qui défraient la vie mystérieuse des harems. Mais nous craignons de nuire à l'intérêt que peut inspirer Couloglou par cette longue interruption, et nous remettrons à la fin de notre analyse la publication des curieux documents qui viennent à l'appui. La quatrième rencontre traite donc de la princesse Nihara, mais comme elle en traite fort longuement, nous abrégerons le plus possible, ayant regret toutefois à tout ce que nous passerons sous silence. Et d'abord, nous voudrions remettre Demurcioglou comme ne le se rattachant pas à l'action de cette aventure. Mais nous devons le retrouver dans la suite de la vie de Couloglou, et nous ne pouvons nous dispenser de le faire connaître au lecteur, d'autant plus qu'il y a là un trait d'affinité avec l'aventure de Guillaume Tell, et raffiné dans tous ses détails par l'ingénieuse exagération des Orientaux. On a dû remarquer aussi, dans le chapitre précédent, la supériorité de l'invention persane à propos de Couloglou effaçant par la seule pression de ses doigts l'effigie d'une monnaie d'or. Les héros de chez nous se contentent de briser la pièce en deux et croient avoir fait l'impossible. Mais le véritable impossible ne se trouve que dans l'Orient. Voilà donc Demurcioglou, le fils du forgeron, qui, du fond de sa ville du Nakhchevan, entend parler de la gloire et de la magnificence du bandit. Mon cœur éclate ici, faute d'action, dit Demurcioglou, et le voilà parti avec son cheval pour Chamlibil. Couloglou, qui chassait aux alentours de sa forteresse, le rencontre et dit d'abord « Voilà un beau garçon !» Demurci lui présente sa requête. « Bon âme, lui répond le maître, tu dois savoir que je donne du pain aux braves et rien aux lâches. » « Ami, dit-il à ses chasseurs, j'ai trouvé ici mon gibier. » Il fait asseoir Demurci sur les genoux, à la manière des chameaux mâles, et lui fait ôter son bonnet. Puis il demande une pomme, tire son anneau de son doigt, le fixe sur la pomme qu'il pose sur la tête de Demurci, se place à distance, tend son arc, et fait passer les 60 flèches de son carquois à travers l'anneau. Content de voir que Demurci n'a pas sourcillé, il dit à ses compagnons « Mes hommes, mes enfants, que celui qui m'aime contribue à équiper Demurcioglou !» À l'instant même, nos bandits, sans aucune crainte de passer pour communistes, se dépouillent chacun de son habillement, de son armure ou du harnachement de son cheval, et il lui fut donné tant de choses qu'en un instant l'étranger se trouva riche. On l'emmène à Chamlibil, on fête sa venue. Kouroglou improvise pour lui au dessert, et dans une de ses strophes, il lui dit « Personne sur la terre ne connaîtrait mes hauts faits sans mes jolies chansons. Oui, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mes amis, et la passion d'un gars égoïste s'est jamais élevée dans mon âme. » Mais écoutez maintenant, s'écrie le rhapsode, l'histoire de la princesse Nigara, fille du sultan de Constantinople. La belle princesse a entendu parler de Kouroglou et elle s'est éprise de lui sur sa brillante réputation. Un jour, qu'elle était sortie pour se promener dans les bazars de la ville, et qu'au son des tambours, tous les promeneurs et tous les marchands s'enfuyaient pour ne pas payer de leur tête le bonheur de l'apercevoir, un certain Beli Ahmed, c'est-à-dire le fameux Ahmed, qui se trouvait là, se dit en lui-même « Tourno et Beli Ahmed, et tu ne verrais pas cette belle princesse ?» Il la vit en effet et faillit le payer cher, car la princesse, qui n'entendait pas raillerie, le foula aux pieds et lui fait étrangler par ses eunuques s'il eut une heureuse inspiration de lui dire, tout en la suppliant, qu'il était natif d'Erzeroum. Aussitôt, la princesse lui demande s'il n'a point vu dans ses contrées un certain Kouroglou, et Beli Ahmed, qui n'est point sot, se hâte de se donner pour un de ses serviteurs. Alors la princesse lui jette de l'or à poignée et lui remet pour son maître son propre portrait, avec une lettre ainsi conçue. Ô toi, qui es appelé Kouroglou, la gloire de ton nom a jeté un charme sur nos contrées. Je me nomme Nigara, fille du sultan Mourad. Je te dis, afin que tu l'apprennes, si tu ne le sais pas encore, que j'éprouve un ardent désir de te voir. Si tu as du courage, viens à Istanbul et enlève-moi. » Beli Ahmed part pour Chamlibil et se présente aux sentinelles qui s'emparent de lui et le conduisent à Kouroglou. Celui-ci lui trouve bonne mine, le fait asseoir et envoie son bel échanson à Ivaz lui chercher du vin. Alors commence avec Ahmed un dialogue dans la forme de celui qu'on a vu au chapitre précédent entre Kouroglou et Croyar Yacoub. As-tu vu un plus beau cheval que mon Kirat? Je n'en ai pas vu. As-tu vu un plus beau guerrier que mon Aïvaz? Je n'en ai pas vu. As-tu vu une plus belle fête, etc., etc. Mais, ô Kouroglou, j'ai vu à Istanbul la princesse Nigara. Kouroglou dresse l'oreille, lit le billet, regarde la miniature, fait sceller Kirat et part en laissant Beli Ahmed enchaîné dans un cachot, comme il avait fait pour Ria Yacoub. En pareille circonstance, c'est sa façon d'agir. Ayant passé les portes de la ville de Constantinople, il descendit de cheval et Kirat le suivit par les rues. Ce merveilleux cheval, descendant à coup sûr de celui qui portait les quatre fils Aymon, sachant bien qu'il pourrait éveiller par sa beauté la convoitise des étrangers, ou craignant qu'on ne jetât sur lui quelque charme, avait l'esprit de laisser tomber ses oreilles comme un âne, de rebrousser son poil, d'emmêler sa crinière, afin de se donner l'apparence et la démarche d'une rosse. Kouroglou vit une femme décrépite dont le dos avait la forme courbée de la nouvelle lune et connut à son air que c'était une sorcière. Il lui demanda l'hospitalité. Elle s'excusa sur sa pauvreté. Alors il lui donne de l'or, elle s'attendrit. Mais arrivés à la maison de la vieille, Kouragoulou, qui veut y faire entrer, qui rate, trouve la porte si basse qu'il est obligé de partager la muraille en deux d'un coup de sabre. La dame pleure, le bandit l'apaise en lui promettant de lui faire rebâtir une belle grande porte. L'écurie était confortable, mais il n'y avait dans les mangeoires qu'un peu de paille et de ronces sèches. Heureusement, Kirat n'était pas dégoûté, et comme son maître mangeait ce qui se trouvait, pourvu que ce fût un peu moins dur que la pierre. Kouragoulou couvra la maison propre et bien aérée, mais dépourvue de tapis. Or, un persan se passera de tout volontiers plutôt que de tapis. Une chambre honorable, t'en avoir un, en laine étendue au milieu d'eux, deux étroits en drap feutré, placés de chaque côté du premier, dans le sens de la longueur, et un quatrième en pur feutre, appelé le serendaz, placé en travers sur le tout. C'est là qu'un gentleman persan boit, mange, cause et digère convenablement. « Mère, dit Kouragoulou à la vieille, va m'acheter au bazar un assortiment de tapis, que le feutre soit de la manufacture de Liam, et que celui du milieu soit des fabriques du Khorasan. Voici encore une poignée d'argent. » Il s'installe bientôt sur ses beaux tapis, ôte son armure, dont la vieille suspend une à une les diverses pièces à la muraille, et lui donne encore une poignée d'argent pour qu'elle aille acheter une robe neuve, car la sienne est si vieille et si mal propre que le sybarite Kouragoulou ne peut la regarder. « Ben voici un vrai fils pour moi, » dit la sorcière. « Oh, puissais-je rencontrer une douzaine de tels enfants ?» Elle s'en va chercher des habits neufs, tout faits dans la boutique d'un tailleur, et enveloppe sa bouche d'un mouchoir blanc pour cacher à son hôte délicat sa bouche édentée. Sous prétexte de l'arrivée prochaine de 12 prétendus amis qu'il doit régaler, Kouragoulou lui commande un énorme souper, riz, beurre, épices et viandes en abondance, le tout dans un grand bassin que la vieille n'eut pas la force d'apporter car il fut rempli et prêt à servir. Kouragoulou venait de frotter, de brosser et de laver Kirat. Il s'était lavé aussi les pieds et les mains, avait récité dévotement son amas, ni plus ni moins qu'un bon père de famille, et se sentait grand appétit. Il alla chercher lui-même à la cuisine la montagne de riz et de viande, et après que son hôtesse eut étendu sur lui une grande nappe et sur la nappe une serviette de peau, il ouvrit sa main comme la patte d'un lion et se mit à jeter des poignées de viande dans la bouche comme dans une caverne. Au milieu de ce repas pantagruélesque dont le récit détaillé et répété doit, je m'imagine, faire une vive impression quand les rhapsodes le déclament, un auditoire de pauvres diables maigres et affamés, Kouragoulou ne laisse pas que de plaisanter agréablement. « Ma vieille, oh, je veux dire ma jeune beauté, car la sorcière trouve la première épithète grossière et ne peut la souffrir. Ma vieille, mange aussi, au nom de Dieu, de peur que le souffle de la destruction ne vienne à s'élever dans ton estomac et que je n'aie à rendre compte de toi au jour du jugement. » La vieille se flattait que les restes de ce terrible souper lui suffirait pour vivre une semaine et régaler encore ses voisines. Elle disait s'être rassasiée à la seule odeur des mets en les faisant cuire. Mais quand elle vit la dévastation que son hôte portait dans l'édifice, elle craignit d'aller se coucher à jeun et plongea sa main décharnée dans le bassin. Malheureusement, un grain de riz lui causa un accès de toux durant lequel Kouragoulou mit à sec le fond du plat. Et quand elle voulut ramasser ses nappes, elle s'aperçut avec effroi que la nappe de cuir avait disparu. « Qu'en as-tu fait, mon fils ?»« Oh, était-ce donc la nappe ?» dit Kouragoulou. J'ai trouvé le dernier morceau un peu dur et amer. J'ai eu quelque peine à l'avaler. Mais pourquoi ne m'as-tu pas averti ? Hélas, pensa la vieille, mon hôte n'est autre que la famine personnifiée. Si sa faim recommence, il avalera mon pauvre corps. Kouroglou fit faire son lit en travers de la porte, ce qui effraya beaucoup la vieille. « De quoi t'inquiètes-tu ? » lui dit-il. « Si tu veux sortir la nuit, je te permets de passer par-dessus mon lit et de me marcher sur le corps. Je m'en apercevrai point. » Couchée dans la même chambre, la vieille, pensant que son hôte avait de mauvais desseins parce qu'il avait beaucoup mangé, ne put fermer l'œil. « Veilles-tu, mère ? » ?»« Hélas, oui, me demande si tu n'es pas Nazar Jelali. » Non, mais tu es donc Gourisoglou. Erreur. Alors, en ce cas, tu rayeras de l'arabe. Encore moins. Alors, tu es le chef de 777, tu es le Gourisoglou. Tu l'as dit. Je viens ici pour enlever la princesse Tigara. La langue de la vieille se raidit dans sa bouche. « Allons, n'aie pas peur, vieille carcasse. Comment serais-je rassuré ? Quand un enfant crie, sa mère lui dit pour le faire taire, « Tais-toi ou le loup viendra te manger !» Et l'enfant crie encore. Alors la mère dit, « Voici le léopard !» L'enfant crie plus fort. La mère dit, « Alors, voici Kouroglou qui va t'emporter !» Alors là, l'enfant se tait et cache sa figure dans l'oreiller. Kouroglou jure par le plus pur esprit du Créateur du ciel et de la terre qu'il la traitera comme sa propre mère si elle ne le trahit pas, mais que, dans le cas contraire, fût-elle assise dans le septième ciel, il lui jetterait un nœud coulant pour l'en arracher, et quand même elle se changerait en djinn pour se cacher aux entrailles de la terre, il l'en retirerait avec des pinces pour la mettre en pièces. Dès le matin, Kouroglou va au bazar et y achète un habit blanc, pareil à celui que portent les mollas, puis une cornaline sur laquelle il fait graffer le chiffre du sultan. Enfin, il fait l'emplette d'une excellente guitare dont le manche se dévisse et se retire à volonté. Il met le cachet et l'instrument ainsi démonté dans sa poche, et muni de ses moyens de séduction, il aborde un fakir et le prie de venir réciter à sa mère mourante quelques versets du Coran. Quand il l'a amené chez la vieille, il lui ordonne d'écrire sous sa dictée une lettre de passe, moyennant laquelle il se présentera comme un mollah, un chavouche, c'est-à-dire un pèlerin de la Mecque, un saint homme envoyé par le sultan à sa fille, et franchira les portes du palais. Le fakir, qui croit Kouroglou incapable de lire l'écriture, le trompe et écrit à la princesse, au nom du sultan, que ce faux chavouche est le plus grand coquin de la terre et qu'il lui recommande de lui faire donner le fouet. Kouroglou, qui lit par-dessus l'épaule du secrétaire infidèle, l'étrangle à demi, le réduit à l'obéissance, scelle la lettre avec le cachet contrefait du musulman, et pour mieux s'assurer de la discrétion du fakir, lui donne un tel coup sur la tête qu'elle s'aplatit comme un livre qui se ferme. Il le pousse ensuite dans un coin de la chambre, donne un coup de pied au mur qui s'écroule et ensevelit le cadavre sous ses ruines. On ne peut pas mieux expédier une affaire. Mais le récit en est fort long et fort curieux, à cause des sentences et des formes du dialogue, mêlées toujours de plaisanteries et de férocité. La vieille criait et se frappait la poitrine. « Jamais le sang innocent n'avait été répandu dans ma maison et tu l'as souillé. Veux-tu donc que je te tue aussi, infidèle sunnite ?» lui répondit Kouroglou. « Et que je fasse tomber le reste de ce mur ?» sur ton corps flétri. Kouroglou se revêt du costume blanc des mollahs, entoure sa tête de plusieurs zones de linge blanc, cache sa guitare dans sa poche, son poignard dans son sein, et le rosaire dans une main, le bâton de voyage dans l'autre. Il franchit, grâce à la feinte lettre et au sceau apocryphe du sultan, les portes sacrées du palais. De cette manière, dit le rhapsode avec un mélange de sympathie et d'indignation, il fut permis à ce larron des larrons d'entrer dans le harem, à cet homme capable de couper le sein d'une mère nourrissant son enfant. Ayant franchi les portes des sept murailles, il arrive au jardin fleuri de la princesse. Il y avait quatre bassins d'eau courante et des fontaines qui s'élançaient en jets. Kouroglou plia son manteau en quatre et s'assit dessus au bord d'une des pièces d'eau, le rosaire à la main, les yeux à demi fermés comme un vrai Ramina Grobis, ce qui ne l'empêchait pas de voir distinctement, dans un kiosque ouvert, la belle Ihara buvant du vin avec plusieurs belles filles de sa suite. Une d'elles vint au bord du bassin pour chercher de l'eau, quoiqu'il ne paraisse pas que Nigara ait eu l'habitude d'en mettre beaucoup dans son vin. « Homme, qui es-tu ? » dit la suivante effrayée. « Homme ! » s'écrie Kouroglou, « quel nom est-ce là ? Ne peux-tu, fille impure, me saluer du nom de Hadjé ? » Et la princesse Nigara, ne peut-elle se donner la peine de chausser sa pantoufle à demi pour venir au-devant du royal Chavouche Chouchan, envoyé ici de la Mecque par le sultan Mourad ? » Toute personne qui apporte une bonne nouvelle a droit à une récompense immédiate. Un camp, en pareille circonstance, détache ordinairement sa riche ceinture et la présente au messager. La suivante, Nihara, court au kiosque et commence par s'emparer du châle et des bijoux de la princesse qui étaient posés sur le tapis. « Mais tu ivres ?» dit la princesse, étonnée d'une semblable audace. « Mais c'est toi-même qui es ivre, » répond l'autre, sans se déconcerter. « Ce que je prends m'appartient. J'apporte la nouvelle qu'un saint homme est arrivé de la Mecque avec un message pour toi. Un feu divin brille dans ses yeux, et son visage renvoie les rayons vers le soleil. » « Levons-nous, mes filles, » dit la princesse. « J'ai lu dans les traditions sacrées que ceux qui vont au-devant d'un pèlerin de la Mecque sont préservés d'être brûlés par la flamme de l'enfer si la poussière des sabots de son cheval tombe seulement sur eux. » Pendant ce temps, Kouroglou avait ôté sa robe et son turban de pèlerin. Il avait mis son bonnet sur l'oreille à la façon des dandis kadjars, rajuster les plis de son bel habit vert olive et nouer gracieusement le cachemire qui lui servait de ceinture et qui laissait voir le manche de son poignard couvert de gros diamants. Quand la vertueuse princesse vit le saint homme transformé en un superbe brigand à grandes moustaches, elle commença non par s'enfuir, mais par faire attacher les pieds de la suivante qui s'était ainsi trompée. Et sous prétexte qu'elle avait dû recevoir quelques baisers de cet imposteur, elle lui fit appliquer une vigoureuse bastonnade sur les talons, puis s'approchant de Kouroglou, qui essayait de justifier la suivante, en se déclarant un amoureux sans argent, incapable de séduire personne par des présents, elle lui donna un grand coup de pied dans la poitrine. « Princesse, » dirent les suivantes, « c'est une pitié de te voir ainsi profaner ton joli pied contre la poitrine non lavée de ce misérable. »« Taisez-vous, sotte fille, » dit le bandit sans se déconcerter. « Vous ne savez pas que mon sein est plus précieux que le talon de votre maîtresse ?» Alors il prit sa guitare et improvisa. Je respire de ton jardin le parfum de la jacinthe et de la violette. Comme elle, tu fleuris dans la solitude. Tu es une flèche au fond de mon cœur. Nirara était indigné. Kouloglou chanta encore. Tu es le fruit le plus frais dans les jardins du printemps. Tu es le coin embaumé, la grenade vermeille, etc., etc. Au lieu de s'adoucir à de tels compliments, la farouche Irara fait un signe à ses femmes et aussitôt une grêle de coups tombe sur l'audacieux. Dieu vous préserve, s'écrie en cet endroit le rhapsode, de tomber sous les ongles d'une femme irritée. En un instant, les vêtements de Kouroglou volèrent en pièces. Princesse, dit-il, si tu n'as pitié de moi, montre au moins quelques merci envers ces pauvres filles. Leurs mains deviendront calleuses à force de me battre. La princesse dit à ses suivantes, « Allons prendre un peu de vin pour nous donner des forces, afin que nous puissions battre encore cet imposteur. » Mais en retournant vers son kiosque, elle regarda en arrière, remarqua les traits de Kouloglou et le trouva beau. Aussitôt, il oublia la cuisson des coups d'ongle et des coups de verge, reprit sa guitare et chanta. « Oh, Nihara, aux yeux de gazelle, verrai-je ton sein se changer en pierre ? Tu m'as renversé sur le visage, puissent tes yeux être remplis de larmes. » Nihara, qui ne pouvait détacher ses yeux de ce mâle visage, se fait apporter du vin. « Fais remplir ton gobelet de mon sang et bois-le !» lui chante encore Kouroglou. En voyant boire du vin, Kouroglou, qui n'en avait pas goûté depuis son départ de Chamlibil, oubliait toutefois son désespoir amoureux pour se lécher les lèvres. Nihara, ému de pitié, lui fit apporter un bassin de beau momillage en disant « Non, je ne désire pas ta mort. Bois et va-t'en. » Kouroglou goûta le baume, fit la grimace et demanda du vin. « Ah, saint homme, tu bois la liqueur défendue par le prophète ?» dit la princesse irritée de nouveau. « Eh bien, nous t'en donnerons, mais tu danseras pour nous divertir. Après quoi, nous te battrons encore et te jetterons dehors. » Nihara disparaît et revient avec ses femmes qui apportent des tapis, des vins et des mets divers. On étend les tapis sur le gazon, on sert le festin au bord de la fontaine. La démarche de la princesse était pleine d'agréments et de grâces, et malgré sa fureur, elle avait arrangé, ou plutôt dérangé, sa toilette pour être plus séduisante. Et Kouroglou chanta. « Oh, Aga, mes frères, Nihara est venue. Des larmes de joie coulent de mes yeux. » L'Arménien aime sa croix, bien que son prophète ait souffert sur la croix. Voyez comme elle a orné ses cheveux noirs, auxquels elle a permis de tomber sur son cou délicat. Elle est venue. Elle est venue pour m'apprendre la beauté. Nihara est venue pour tuer Kouroglou. Elle est venue. » La princesse le regardait toujours. Mais, comme les femmes de chez nous, elle se montrait toujours plus cruelle pour se faire aimer davantage. Seulement, ses façons d'agir étaient un peu plus énergiques. Elle le fit battre de nouveau, et cette fois-ci, si sérieusement, que Kouroglou, vaincu par la souffrance, se roulait par terre. Ne faut-il pas s'étonner ici de voir ce héros dont la force fabuleuse détruisait des légions et se frayait un passage au milieu des armées, poussait la douceur et la soumission envers le beau sexe jusqu'à se laisser mettre en lambeaux, ni plus ni moins que lui fait Don Quichotte, le modèle de la chevalerie. Cet ensemble de force et de tendresse caractérise Kouroghoulou, d'un bout à l'autre du poème. Enfin, n'en pouvant plus supporter davantage, mais ne voulant pas lever la main sur des femmes, il se jette dans la pièce d'eau, la traverse à la nage en élevant sa guitare au-dessus de sa tête et gagnant le milieu où l'eau jaillissait d'un pilier de marbre, il s'assit dans cet endroit. Les femmes commencèrent à lui jeter des pierres. « Oh, Belli Ahmed, tu m'as trompé !» pensait Kouroghoulou. « Elle ne m'a jamais aimé !» Alors il se mit à chanter, et là, vraiment, il lui dit de si belles choses que son sein commence à palpiter et qu'elle l'écoute avec un plaisir toujours croissant. Le soleil est levé sur la colline de l'Orient. Elle est le jardin des fleurs. Les roses ouvrent leurs boutons sur ses joues. Que nul ennemi n'ose regarder dans le jardin de la mort. Ô Nigara, celui qui touchera ta ceinture une fois seulement deviendra immortel. Cinquième rencontre. Le soir approchait. La fraîcheur de l'eau calmait les souffrances de Kouroghoulou. La princesse se dit « Il répète sans cesse le nom de Kouroghoulou. Ah, mais si c'était lui-même !»« Parle, à vous la vérité, lui dit-elle. Es-tu Kouroghoulou ?» Et comme il l'assurait, elle reprit « Kouroghoulou est, dit-on, de la même taille que mon père, le sultan. » « Je vais te faire essayer sa robe royale. Si elle est trop longue pour toi, je ferai enfoncer des clous dans tes talons afin que tu deviennes plus grand. Mais si elle est trop courte, je te ferai couper les pieds. Si elle est trop large, je te ferai ouvrir le ventre et si on te remplira de paille pour te grossir. » Kouroghoulou dit « Tu me punis selon le code d'Abu Huraira. N'importe où je serai la robe. » Il sortit de l'eau et Nihara, de ses propres mains, lui passa la robe. Elle semblait avoir été faite pour lui. Alors ils jetèrent leurs mains autour du cou l'un de l'autre et entrèrent dans le pavillon où, suivant la coutume turque, ils burent dans la même coupe. Alors la princesse dit « As-tu amené ici ton fameux cheval qui rate ?»« Oui, je l'ai amené. » « Il faut donc que tu trouves pour moi un autre cheval aussi bon que Kirat. » Kouroghoulou, voyant les progrès qu'il faisait dans le cœur de la princesse, se mit à chanter. « Humide, humide est la neige que l'on voit au sommet des grandes montagnes. Tes yeux brillants soufflent la fraîcheur sur mon cœur embrasé. Mon cher amour est couvert d'habits couleur de rose. » Elle est tout entière d'une teinte rose. L'eau qu'elle boit est aussi pure que l'azur du ciel. Ses yeux sont enivrés d'amour et de vin. Je suis Kouroghoulou. Ne suis-je pas libre de me promener dans ces bosquets? Je ne puis marcher en liberté dans le monde, car le monde est trop étroit pour moi. Kouroghoulou, ayant combiné son plan avec la princesse, reprit ses habits de molla et sortit du harem comme il y était entré. Il fut arrêté à la porte par les gardes qui lui dirent « Saint homme, puisque tu as accès auprès de la princesse, commande-lui au nom du ciel de nous faire toucher notre paye. Car depuis le début du sultan, le départ du sultan son père, nous n'avons pas reçu une obole. » « Je vous jure que je vous ferai payer, » dit Kouroghoulou. « Et en attendant, pour lui marquer votre mécontentement, vous devez abandonner vos postes et vous refuser à escorter la princesse. » Ayant donné cet avis charitable, le fourbe retourne chez sa vieille hôtesse et va ensuite acheter au bazar un beau poulain de 3 ans, le ramène à l'étable, prépare lui-même la selle, et au lever du soleil, en entendant les trompettes sonner pour annoncer une promenade de la princesse hors la ville. Il paye magnifiquement sa vieille, lui conseille de se cacher afin de n'être point persécuté à cause de lui, et monté sur Kirat, suivi par le poulain attaché à son étrier, il s'en va sur la route attendre Nighara, qui bientôt arrive dans son chariot. Il l'enlève des bras de ses femmes, la met en croupe, et s'enfuit avec elle dans le désert. Là, tombant de fatigue, il s'étend sur le gazon et cède au sommeil. La princesse lui demande s'il compte dormir longtemps. « Mon sommeil est de deux sortes, lui dit-il. Le plus court est de 3 journées, et le plus long est de 7 journées. Mais écoute, ma bien-aimée, Kirat a le don de pressentir l'approche de mes ennemis. » Quand l'ennemi se met en route pour me poursuivre, Kirat ennemi. Quand l'ennemi est à moitié chemin, Kirat devient inquiet et souffle avec ses narines. Et quand l'ennemi est tout près de se montrer, Kirat gratte la terre et l'écume lui vient à la bouche. La princesse se plaint vainement du long somme dont son amant la menace en plein désert et au milieu des dangers. Il faut que Kouroglou dorme ou qu'il périsse. À cette robuste organisation, il faut un repos semblable à celui de la mort. Elle examine Kirat avec inquiétude, et quand elle a vu signaler le départ et la marche de l'ennemi, quand elle a remarqué ses sabots grattant la terre et sa bouche couverte d'écume, elle éveille Kouroglou, ainsi qu'elle a été avertie par lui de le faire. Aussitôt, il se lève, rattache les sangles de son coursier, fait monter Nighara sur l'autre et attend de pied ferme le jeune sultan Bourji qui accourt à la délivrance de sa sœur Nighara. Kouroglou, par ses terribles chansons, porte l'épouvante dans le cœur des guerriers du prince et bientôt, s'élançant au milieu d'eux, il les disperse comme un troupeau de gazelles. Mais Bourji Sultan, résolu à reconquérir sa sœur, s'élance seul contre lui. « Que faire ?» dit Kouroglou dans son cœur. « Si je tue le frère de ma bien-aimée, elle ne me pardonnera jamais et remplira ma vie d'amertume. » Nighara se prend à pleurer. « Oh, Kouroglou, je n'ai qu'un frère, ne le tue pas. »« Mon ami ne craint rien, » dit Kouroglou. Et s'adressant au prince, « Le chef de tes écuries ne gagne pas le pain qu'il mange. Il n'a pas seulement serré les sangles de ton cheval. Je t'avertis que tu roules sur la selle. Descends et raccourcis tes sangles. Tu combattras ensuite contre moi. » Le Turc, crédule, descend pour arranger sa selle. Pendant ce temps, Kouroglou s'approche avec précaution, le renverse, s'assied sur lui et feint de vouloir le tuer. Bourji pleure et se lamente. « Le sultan, mon père, n'avait qu'une fille et un fils. Tu enlèves l'une, tu vas tuer l'autre, mais toute la famille va être éteinte. » « Je t'accorde la vie, à condition que tu me donnes ta sœur en mariage. Je suis aussi savant qu'un mollah. J'ai lu les 7 volumes des commentaires arabes sur le Coran. Je sais par cœur toutes les formules usitées dans les mariages. » Et le prince prononce avec lui la prière nuptiale consacrée par le Coran et lui accorde sa sœur. Kouroglou le relève, l'embrasse au front et lui dit « Désormais, au nom et par l'autorité du sultan Mourad, ton père, je gouverne et règne à Chamalibil. Pourrait-il trouver un meilleur parti pour sa fille ?» En continuant leur route vers Chamalibil, Kouroglou et Nighara traversent encore quelques aventures. Il pénètre dans le camp d'un jeune Européen qui tombe amoureux d'Ilara et veut l'enlever à son époux. Kouroglou est forcé de détruire sa suite et de piller ses trésors. Il est même au moment de le tuer pour lui apprendre à vivre lorsque Ilara, touché de l'amour de ce jeune homme, le fait sauver et menace Kouroglou d'avaler un poison mortel caché dans l'anneau qu'elle porte au doigt s'il n'abandonne pas sa poursuite. Kouroglou se soumet et continue son voyage avec elle. Nihara montait à cheval aussi bien que lui-même et pouvait fournir une course aussi hardie, aussi rapide que la sienne. Ils surprirent une caravane, se firent payer une riche redevance, et là encore, Nihara obtint grâce de la vie pour le marchand. Elle blâmait beaucoup son époux de commettre toutes ces violences. Il lui répondit avec la franchise d'un honnête Turcoman : Je ne laboure ni ne trafique, il faut donc que je vole. L'argument était sans réplique. Enfin, ils atteignirent les portes de Chamlibil. Les brigands vinrent à leur rencontre avec des exclamations, des chants et des décharges de mousqueterie. Guerrier, dit la princesse à Kouroglou, lequel d'entre eux est Aïvaz ? Montre-le-moi. Improvisation de Kouroglou. Regarde ici, mon cher amour, ce cavalier est Aïvaz. Regarde-le et préserve mon âme du lit de feu de la jalousie. Regarde, voilà Aïvaz. Mais ne tombe point amoureuse de lui. Dans sa main étincelle un bouclier Erzar. Le miel de l'éloquence est sur sa langue, et la ligne du pinceau de la main du Tout-Puissant est sur l'arc de ses sourcils. Regarde, mais n'en tombe pas amoureuse. Ce n'est qu'un garçon de 14 ans. Une plume de grue est sur sa tête. Oui, ce cavalier, c'est Aïvaz, oui, Aïvaz lui-même. Il présenta alors son épouse à ses compagnons en leur disant « Nous devons tous l'honorer, elle est la fille du sultan de Turquie. » Et Nihara, s'étant assise sur le seuil de la porte de la forteresse, les 777 cavaliers de la garde sacrée de Kouroglou se prosternèrent devant elle. « Ô Dieu !» s'écria Kouroglou, « sois béni et ton nom glorifié. Je dois à ta seule bonté d'avoir réalisé mes plus chères espérances. » Il frappa les cordes de sa guitare et chanta ainsi. Les nuages de l'adversité ont été dissipés par la foi de Kouroglou. Ils se sont évanouis comme la brume du matin. Voici mon Aïvaz. Nihara fit son entrée couchée sur les riches coussins d'un palanquin d'honneur. Toutes les femmes et toutes les esclaves de Kouroglou vinrent à sa rencontre et l'introduisirent respectueusement dans le harem. Beli Harmed fut tiré de sa prison et récompensé par un des premiers grades dans la troupe. Ce même jour, on célébra le mariage de Kouroglou et celui d'Aïvaz, auquel le maître donna une femme. Les musiciens, danseurs et jongleurs vinrent en foule. Le vin coula par torrents, et il coule encore à 7 heures, dit ordinairement le camp pour clore cette rhapsodie.